Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Bion à ce micro au sommaire de cette édition du jeudi 17 octobre 2024. Au Tchad, plusieurs hauts responsables sécurité évincés par décret. Au Sénégal, le Premier ministre vise une majorité écrasante aux législatives. Le procès en destitution du vice-président Kenya a tourné au chaos après qu'il soit tombé malade. Le Congo-Brazzaville fait face à de graves tensions de trésorerie.
C'est une situation pratiquement de cessation de paiement. Le Congo n'arrive plus à faire face à ses charges.
Clément Mirassa, ancien ministre de l'économie, nous dira les causes, selon lui, de la crise économique en République du Congo. Le chef du Hamas, Yahya Sinwar, a été tué par l'armée israélienne. Ici aux États-Unis, à 18 jours de la présidentielle, les deux candidats et leurs colistiers mettent les bouchées doubles dans la campagne. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Au Tchad, plusieurs hauts responsables des forces de défense et de sécurité ont été évincés hier soir par un décret du président Mahamat Idriss Déby Itno, quelques jours après le limogeage du ministre de la Sécurité, Claire Morejibou.
Le directeur général de la police, le directeur général de la gendarmerie, des chefs d'état-major, général des armées ainsi que des commandants de la garde nationale nomade du Tchad ont tous été appelés à d'autres fonctions selon ce décret. Samedi, la télévision d'État avait déjà annoncé le remplacement du ministre de la Sécurité, Mahamat Sharfadine Margui, par le général Ali Ahmad Akabash, dans le cadre d'un remaniement ministériel limité. Cette restructuration des forces sécuritaires intervient dans un contexte de détérioration du climat politique et sécuritaire. Un ex-commandant des renseignements généraux et son fils ont été abattus et les autorités ont émis la semaine dernière un ordre opérationnel pour sécuriser la ville de N'Djamena et procéder à des fouilles systématiques pour retrouver des armes. Dénonçant un climat délétère de dictature et de terreur et les risques de fraude électorale, les partis d'opposition ont pour leur part annoncé la semaine dernière le refus de participer aux élections législatives et communales du 29 décembre.
Au Mali, le chef du régime militaire Assimi Goïta et cinq des principales figures du pouvoir ont été élevés mercredi du rang de colonel à celui de général lors du Conseil des ministres. La promotion des colonels au rang de général figurait parmi les recommandations issues du dialogue national. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a invité les électeurs à lui donner une majorité écrasante aux législatives de novembre pour mettre en œuvre ses projets de transformation de l'État. Yacouba Ouedraogo.
Nous avons besoin d'avoir les moyens législatifs pour faire passer nos lois, contrôler l'action gouvernementale, mener la reddition des comptes. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Ousmane Sonko, tête de liste de son parti PASTEF. Les Sénégalais vont élire une nouvelle assemblée le 17 novembre, 8 mois après la présidentielle qui a vu la victoire de Bassirou Diomaye Faye, élu sur la promesse de rupture, de justice sociale et de lutte contre la corruption. Lui et son premier ministre Sonko se sont heurtés pendant des mois à une majorité parlementaire hostile issue des élections de 2022. Le président Faye a alors dissous l'assemblée en septembre, ouvrant la voie à des élections anticipées. Le gouvernement doit répondre aux attentes fortes d'une population très jeune. Il a baissé les prix du riz, de l'huile et du sucre et lancé des audits. Il vient de présenter un plan pour les 5 prochaines années et un projet de transformation de l'économie et des politiques publiques sur 25 ans. Ousmane Sonko promet une reddition des comptes pour les anciens dirigeants. L'opposition parle d'inaction, d'amateurisme et de règlement de comptes.
Au Kenya, la procédure de destitution inédite du vice-président Rigathi Gachagua a été bouleversée ce jeudi, quelques heures avant le vote prévu au Sénat, après que l'un de ses avocats a déclaré qu'il était tombé malade et était hospitalisé. Rosine Monizero.
Arrivé au Sénat jeudi matin, M. Gachagua devait répondre aux accusations qu'il a qualifiées de pure propagande et de complot visant à le chasser du pouvoir en raison d'autres considérations politiques. Après la pause déjeuner, il n'est pas revenu dans la salle d'audience. La triste réalité est que le vice-président de la République du Kenya est tombé malade et est à l'hôpital, a déclaré l'avocat Paul Mouité pour expliquer l'absence de M. Gachagua. Les audiences ont par conséquent été suspendues. Dernier développement de ce feuilleton politique qui a tenu le pays en haleine. M. Gachagua est notamment accusé de détournement de fonds, de trafic d'influence et d'accusations frauduleuses d'hôtels et d'appartements. Pour être adopté définitivement, la motion doit réunir au moins 2/3 des sénateurs, soit 45 voix. En cas d'adoption, Rigathi Gachagua serait automatiquement démis de ses fonctions et deviendrait le premier vice-président écarté du pouvoir dans le cadre d'une telle procédure prévue par la Constitution de 2010.
En Somalie, au moins 7 personnes, dont des civils, ont été tuées ce jeudi dans l'attaque suicide d'un homme qui s'est fait exploser près d'une école de police à Mogadiscio, selon la police et des témoins. Les djihadistes du groupe militant Al-Shabaab lié à Al-Qaïda, qui ont mené de nombreuses attaques à Mogadiscio et dans d'autres régions du pays, ont revendiqué l'attentat dans un communiqué. Les combats dans le nord-ouest de l'Éthiopie mettent en grand danger des dizaines de milliers de Soudanais qui y ont fui leur pays en guerre. A alerté aujourd'hui Human Rights Watch, d'après l'ONG, des hommes armés et des milices locales ont commis des meurtres, des passages à tabac, des pillages, des enlèvements contre rançon et des travaux forcés.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le nouveau chef du Hamas, Yahya Sinwar, porté à la tête du mouvement palestinien en août à la suite de l'élimination d'Ismaël Haniyeh à Téhéran, a été tué par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, ont annoncé aujourd'hui les autorités israéliennes. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a salué la mort du chef du Hamas, qu'il a qualifié d'étape importante, mais a averti qu'elle ne signifiait pas la fin de la guerre dans la bande de Gaza. La mort de Sinwar a créé une occasion en vue d'un règlement politique à Gaza, a déclaré pour sa part le président américain Joe Biden. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi ont appelé aujourd'hui à apaiser les tensions dans la région à l'occasion d'une rare rencontre au Caire, la visite en Égypte de M. Araghchi, la première d'un responsable iranien de ce rang depuis 2013, intervient au moment où Téhéran multiplie les consultations diplomatiques pour tenter d'apaiser les tensions régionales après des frappes iraniennes contre Israël le 1er octobre qui font désormais craindre des représailles. La course à la Maison Blanche, la candidate démocrate Kamala Harris a promis mercredi en Pennsylvanie que sa présidence ne serait pas une continuation de celle de Joe Biden. Son adversaire républicain Donald Trump a lui répondu aux questions d'électeurs latinos rassemblés en Floride par Univision, le plus grand réseau télévisé hispanophone des États-Unis. Jacques Aristide.
Comme chaque nouveau dirigeant qui prend ses fonctions, j'apporterai mon vécu, mes expériences professionnelles et des idées nouvelles, a déclaré hier soir la vice-présidente Kamala Harris lors d'un entretien qualifié de tendu sur Fox News, la chaîne dite préférée des conservateurs américains. La candidate démocrate a été bousculée par moments, tout particulièrement sur le dossier de l'immigration. Pour sa part, face à des électeurs latinos indécis à Miami hier, Donald Trump a fustigé l'administration Biden-Harris pour la crise de l'immigration illégale aux États-Unis. Pour le candidat républicain, la communauté hispanique est la plus opposée à l'immigration illégale aux frontières américaines. À 18 jours de la présidentielle, les deux candidats et leurs colistiers mettent les bouchées doubles. Kamala Harris mène campagne aujourd'hui dans l'état pivot du Wisconsin. Donald Trump doit lui prendre la parole ce soir lors du dîner annuel de la Fondation Alfred E. Smith Memorial, une collecte de fonds catholiques. Et après la Géorgie mardi, le vote anticipé a démarré ce jeudi en Caroline du Nord.
Le Secret Service chargé de la protection des hautes personnalités politiques américaines doit se réformer en profondeur pour éviter la reddition des fiascos comme l'assassinat manqué de l'ex-président Donald Trump. Le 13 juillet affirme ce jeudi une commission d'enquête indépendante. Dans un rapport, les 4 membres de cette commission recommandent en particulier un changement de direction du Secret Service avec la nomination à sa tête de responsables venant de l'extérieur et qu'il se concentre désormais sur sa mission cruciale de protection, quitte à en abandonner d'autres. L'administration de Joe Biden et Kamala Harris a annoncé aujourd'hui de nouvelles annulations des dettes étudiantes pour des fonctionnaires à l'approche de l'élection du 5 novembre qui opposera la vice-présidente démocrate à l'ancien président républicain Donald Trump. Cet allègement concerne quelque 60 000 enseignants, infirmiers, infirmières, travailleurs sociaux, militaires urgentistes ou encore pompiers, pour un montant total de dettes annulées de 4,5 milliards de dollars, indiquait la Maison-Blanche dans un communiqué. Et puis réunis en sommet à Bruxelles, les dirigeants européens se sont penchés aujourd'hui sur un nouveau durcissement de la politique migratoire, affichant leur désaccord après l'envoi par l'Italie de premiers migrants dans des centres d'accueil en Albanie. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Claire Morin-Gibourg.
Au Niger, les autorités ont interdit les exportations de riz et de la plupart des céréales pour protéger l'approvisionnement de ces marchés locaux, sauf vers le Burkina Faso et le Mali. La mesure décidée par le général Abdourahman Tiani veut rendre accessibles les denrées de grande consommation. En plus du riz, les exportations du mil, du sorgho, du niébé et du maïs sont aussi concernées. Au Sénégal, le déficit budgétaire et la dette publique s'annoncent plus élevés pour la période 2019-2024, selon le Fonds monétaire international, qui a terminé hier une mission dans le pays. Selon le FMI, le Sénégal fait face à une baisse des recettes et une hausse des dépenses, notamment en raison de projets d'investissement majeurs. Dans son communiqué, le FMI exhorte le Sénégal à mettre en place des réformes audacieuses, notamment la réduction des subventions énergétiques. Au Burkina Faso, l'État va prendre une participation dans le capital de la société Burkina Kaju SA qui veut implanter un complexe de transformation de noix brutes de cajou à Bobo-Dioulasso. La décision a été approuvée par un décret lors du Conseil des ministres hier. Selon Ecofin, le Burkina Faso est l'un des principaux fournisseurs de noix de cajou en Afrique de l'Ouest, avec notamment la Côte d'Ivoire et le Bénin.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Début réussi pour le Nigeria à la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans.
Oui, les jeunes Super Falcons ont dominé la Nouvelle-Zélande 4-1 pour leur entrée en lice dans ce mondial féminin des moins de 17 ans. Shakira Mouchoud a ouvert le score dès la 3e minute, puis les Nigérians ont aggravé le score à la 13e et 27e minute avant d'enfoncer le clou après la mi-temps. Anna Saxon a réduit le score pour les Néo-Zélandaises. Autre équipe africaine en lice qui joue ce soir, le Kenya qui fait face à l'Angleterre et la Zambie qui affrontent le Brésil. Cette 8e Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans a commencé hier et prendra fin le 3 novembre en République dominicaine.
L'affaire Mbappé à présent, le joueur dit garder ses explications pour la justice, le cas échéant.
C'est ce qu'a annoncé l'avocate du joueur français, Maître Marie-Alix Kanou-Bernard, dénonçant les allégations des médias laissant entendre que Kylian Mbappé s'est exprimé sur le déroulé de son voyage à Stockholm. Ce jeudi, le journal parisien et RMC Sport ont annoncé que le capitaine de l'équipe de France et attaquant du Real Madrid aurait eu un rapport sexuel lors d'une relation consentie avec une jeune femme. Les deux médias français avancent que Mbappé dispose de messages de la jeune fille à tonalité très positive, racontant l'histoire d'une rencontre heureuse, ne souffrant d'aucune ambiguïté, ajoute le Parisien. Rien par contre ne permet d'affirmer que la plaignante dans l'affaire de viol n'est l'autrice de ces messages, précise le Parisien. Le parquet suédois a dit mardi mener une enquête pour viol après le passage de Kylian Mbappé et de son entourage la semaine passée à Stockholm, sans citer de nom. Des médias suédois assurent que la star est au cœur des investigations.
Arts martiaux mixtes pour finir avec le retour de Francis Ngannou dans la discipline.
À l'approche de son combat contre le Brésilien Renan Ferreira ce samedi à Riyad, son premier en MMA depuis quasiment 3 ans, le Camerounais se dit décidé à prouver ce dont il est capable et espère se découvrir lui-même. Le dernier combat de MMA de Francis Ngannou remonte à janvier 2022. Entre-temps, il s'est offert 2 combats de boxe anglaise, son rêve d'adolescent contre les superstars Tyson Fury et Anthony Joshua. Les 2 affrontements, qui se sont aussi disputés à Riyad en Arabie Saoudite, se sont soldés par des défaites. Cette fois-ci, en MMA, Ngannou affronte le Brésilien Renan Ferreira pour tenter de décrocher la ceinture Super Fight des poids lourds du PLF. Ce combat est disputé sous la bannière du PLF, ligue émergente dans le monde du MMA, et non de l'UFC, l'organisation de référence qui l'a quitté avec fracas l'an dernier.
Page des sports VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. La situation économique du Congo, en crise depuis plus d'une décennie, présente un tableau alarmant. Les retards de paiement des salaires et les grèves au sein d'institutions essentielles telles que l'université Marien Ngouabi sont autant de signes d'une économie au bord de la faillite. L'ancien ministre de l'économie Clément Mirassa attribue cette situation à une gouvernance défaillante et à une dépendance excessive des revenus pétroliers.
En juillet 2019, on a eu un programme avec le Fonds monétaire pour lequel les gouvernants n'ont pas pu respecter les engagements. Ils ont signé un nouveau programme en janvier 2022 qui se termine là et ils pensaient sortir le Congo de la crise, mais ça ne va pas du tout. La situation, c'est une situation pratiquement de cessation de paiement. Le Congo n'arrive plus à faire face à ses charges incompressibles, notamment les salaires, la dette, les bourses, les retraites, les pensions de retraite, le fonctionnement des services sociaux, etc. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous avez dans beaucoup d'institutions, dans beaucoup de structures, des retards de salaire. Pour vous donner une indication, à la présence de la République du Congo, on compte actuellement 6 mois d'arriéré de salaire. Le Parlement, c'est à peu près la même chose. Le Conseil économique, social et environnemental, c'est la même chose. Donc, et il y a la grogne partout, au niveau du chemin de fer Congo-Océan, au niveau de l'université Marien Ngouabi, au niveau du centre hospitalier universitaire de Brazzaville, au niveau de l'hôpital Assisé de Pointe-Noire, au niveau de l'hôpital de Luandi, etc. Et cette situation, on a eu à l'analyser très souvent. Elle est due à une très grande mauvaise gouvernance. Elle est due à l'incapacité de réaliser la diversification économique. Elle est due au fait que l'économie est trop fortement dépendante du pétrole. Elle est due au fait que, bon, aujourd'hui, on a un chômage massif, on a un certain nombre de choses, et le gouvernement n'arrive pas à apporter les solutions. Et vous avez le problème que vous connaissez, c'est le problème de la dette, qui est insoutenable. Il y a une situation de surendettement et actuellement la dette du Congo représente pratiquement 99% du produit intérieur brut, alors que la norme communautaire au niveau de la CEMAC est de 70%. Donc quand je décris ce tableau un peu sombre pour vous dire que l'université Marien Ngouabi vit des grèves fréquentes, elle est actuellement en grève, la pénurie de carburant. Donc ça pose des problèmes de transport. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, d'électricité. Donc le Congo vit vraiment des moments extrêmement difficiles en ce moment.
Vous êtes un ancien ministre de l'économie. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Il y a quand même une voie de sortie possible.
Je dénonce aussi le fait que le gouvernement, les gouvernants actuels, ne sont pas capables de lutter contre la corruption. Parce qu'il est reconnu que l'économie congolaise est minée par la corruption, elle est minée par les détournements des deniers publics, elle est minée par la fraude, etc. Les cas sont extrêmement nombreux. Et je pense que l'une des mesures que nous devions faire, c'est une lutte âpre et farouche contre la corruption.
L'ancien ministre de l'économie, Clément Mirassa, répondait aux questions d'Éric Manirakiza.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
En Mauritanie, une loi d'orientation de l'éducation adoptée en juillet 2022 entre en vigueur cette année. Cette loi qui instaure les bases d'une école républicaine oblige les élèves à s'inscrire dans les écoles publiques les 3 premières années du primaire. Pour les autorités, cette réforme contribuera à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Mais pour certains observateurs, cette réforme menace l'enseignement privé et l'enseignement tout court. Reportage de notre correspondant à Nouakchott, Mohamed Ndiop.
En 2022, la Mauritanie lance une réforme éducative instaurant l'école républicaine défendue à l'époque par Mokhtar Ould Doudahi, alors ministre de l'Éducation nationale.
Conformément aux directives du président Ghazouani, la réforme de l'éducation visant à instaurer l'école républicaine est une priorité urgente. Elle prévoit de transformer progressivement l'enseignement primaire en école publique, garantissant un accès égal à tous les enfants du pays.
Cependant, la mise en œuvre de la réforme qui élimine progressivement l'enseignement primaire dans les écoles privées inquiète des parents d'élèves réunis ici en cité. Ils estiment aussi que l'école républicaine ne réunit pas toutes les conditions.
Nous sommes là, le comité des parents d'élèves, donc pour revendiquer l'intégration des classes de première année AF, deuxième année AF et troisième année AF dans les écoles privées. Nous ne sommes pas contre l'école républicaine, mais cette école n'est pas encore prête à accueillir nos enfants. Côté infrastructure et aussi l'éducation qui n'est pas de qualité. Nous avons le droit de choisir l'éducation qu'il faut pour nos enfants.
J'ai essayé d'inscrire ma fille à l'école publique. J'ai trouvé une classe de 80 élèves où certains sont même assis en bas. Comment on peut laisser nos enfants étudier dans ces conditions? Je suis d'accord avec l'école républicaine, mais elle n'est pas prête. L'État n'est pas prêt à donner assez d'enseignants, à mettre les moyens nécessaires dans l'éducation. Je suis prêt pour payer pour l'éducation de mes enfants. Laissez-moi payer, c'est mon droit.
Côté autorité, Salik Diddou, directeur général des ressources humaines au ministère de l'Éducation et de la réforme du système éducatif, parle de réformes cruciales pour l'avenir du pays.
L'objectif est de renforcer la cohésion sociale entre les différentes composantes de la société mauritanienne. Composée de divers groupes, la société doit consolider les liens qui les unissent, permettant à chacun de mieux connaître la culture de l'autre et de parler la langue de l'autre. Par ailleurs, une ouverture accrue et un encouragement à l'apprentissage des langues étrangères, telles que le français et l'anglais, qui sont prévus en particulier
Un autre point de discorde est l'arabisation avec une première année primaire entièrement en arabe. Cependant, le gouvernement a homologué 7 écoles qui enseignent en français. Mais pour cette parente d'élèves, les privées homologuées restent coûteuses et insuffisantes.
Si nous laissons passer cela, nos enfants ne pourront plus aller à l'école. Les écoles privées homologuées ne sont pas accessibles à tout le monde. Il faut payer jusqu'à 100 000 wigias par mois pour y inscrire son enfant.
Mohamed Diop, VOA Afrique, Nouakchott.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Mali, les pluies continuent de faire des dégâts. Des inondations ont poussé le gouvernement à reporter la rentrée scolaire. L'école de Karama, située sur le fleuve Niger, est envahie par les eaux. Plus de 260 élèves fréquentent cette école, qui pour la plupart sont issus de familles de pêcheurs. Reportage Mokhtar Bari.
Les pluies diluviennes qui s'abattent sur le Mali et Bamako en particulier font des dégâts. Parmi les personnes touchées, les riverains du fleuve Niger qui traversent la capitale malienne. L'école de Dialagoum, connue sous le nom de Karama, est située sur le fleuve Niger et a vu ses classes, jardins et sa petite ferme d'élevage emportées par les eaux. Bourlaï Kané est le directeur de l'école.
Alors la situation chez moi c'est catastrophique. Déjà la crue a débordé, il y a de l'eau partout. Moi, j'ai perdu 4 salles de classe qui étaient construites en paillote. Donc, ces 4 salles de classe-là, maintenant, il ne me reste que 2 salles de classe en dur. Du coup, ce qui empêche vraiment la reprise des cours.
À l'origine de cette école créée en 2017, permettre aux enfants des pêcheurs d'avoir accès à l'éducation et pouvoir prétendre à un bel avenir. Avenir qui semble compromis avec l'inondation de cet îlot qui représente aujourd'hui tout un espoir. Bazoumana Koumaré est le chef de village des pêcheurs de Badalabougou.
Avant, nos enfants ne partaient pas à l'école. Il a fallu cette bonne volonté pour aider nos enfants à aller à l'école. Donc, si cette école est emportée par les eaux, c'est tous nos espoirs qui s'effondrent. C'est pourquoi nous demandons l'aide du gouvernement.
Marie Garnier, l'initiatrice de cette école, qui est devenue aujourd'hui une école publique, ne cesse de multiplier les initiatives pour sauver cet établissement scolaire. Elle a lancé une initiative pour demander de l'aide sur les réseaux sociaux.
avec les précipitations, avec les pluies vraiment très abondantes, on voyait au fur et à mesure des jours qui passaient, les bâtiments s'écrouler les uns après les autres. Et vraiment, c'est toute une grosse énergie qui est tombée à l'eau, comme on peut dire. Mais l'idée, c'est de continuer, de chercher des fonds, de refonder cette école et de pouvoir continuer d'assurer la scolarité à ses enfants.
Le report de la rentrée scolaire par le gouvernement du Mali fut bien accueilli par l'administration de l'école, une administration qui a besoin d'aide pour pouvoir subvenir aux besoins de ses 300 élèves qu'abrite cette école. Mokhtar Bari pour VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Après un report d'une semaine en raison de l'ouragan Milton aux États-Unis, le président Joe Biden a mis le cap sur l'Allemagne ce jeudi pour une visite d'État d'une journée, demain vendredi. Au cœur des discussions à Berlin, l'Ukraine, au moment où les dirigeants américains et allemands sont confrontés à une pression croissante concernant leur soutien à ce pays en guerre, tous deux ayant récemment annoncé de nouveaux plans de sécurité. Le point avec Anita Powell, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, le récit est de Jacques Aristide.
Au programme en Allemagne, un tête-à-tête entre le président Joe Biden et Olaf Scholz, le chancelier allemand qui a d'ores et déjà souligné l'importance de ce voyage éclair et salué les relations entre Washington et Berlin. En haut de l'agenda, l'Ukraine. Le chef de l'exécutif américain a d'ailleurs fait part mercredi d'une nouvelle aide à Kiev de 425 millions de dollars. Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche.
Le président estime que ce déplacement chez l'un de nos alliés est très important car il s'agit d'un partenaire inébranlable, certainement pour ce qui est du partenariat soutenant la défense de l'Ukraine. Et le président voulait vraiment s'assurer d'aller en Allemagne pour remercier directement le chancelier Scholz.
Lors d'une rencontre avec Olaf Scholz la semaine dernière à Berlin, le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky a présenté son plan de victoire, qui comprend un appel à rejoindre l'OTAN avant la fin de la guerre menée par la Russie contre son pays. Un plan dévoilé mercredi au Parlement ukrainien par le président Zelensky.
Ce plan est un pont pour organiser un sommet de paix productif qui mettra vraiment fin à la guerre. Ce plan n'est pas destiné à remplacer notre initiative de paix, mais plutôt à renforcer la position de l'Ukraine afin de nous rapprocher de la paix. Nous pouvons y parvenir grâce à la coopération de tous nos partenaires. Nous comptons également sur le soutien de l'Allemagne.
Le nouveau secrétaire général de l'OTAN, le néerlandais Mark Rutte, s'est contenté de dire mercredi que l'Ukraine en serait membre un jour. Cette guerre oblige les États-Unis et leurs alliés à travailler ensemble pour contrer un groupe d'adversaires ayant les yeux rivés sur le sort de l'Ukraine, d'après le général James Jones, conseiller à la sécurité nationale de l'ancien président américain Barack Obama.
L'alliance entre l'Iran, la Russie, la Chine et la Corée du Sud, si vous voulez l'appeler ainsi, est très dangereuse et nous ne pouvons pas prétendre qu'elle ne l'est pas. Et nous devons faire des choses comme renforcer l'OTAN, renforcer l'UE, renforcer les relations bilatérales et nous assurer que Vladimir Poutine ne l'emporte pas en Ukraine.
Le voyage du président américain pourrait être important pour l'avenir de l'Ukraine, indique via Zoom William Pomeranz, chercheur au Wilson Center.
Je pense que Biden pourrait utiliser son séjour en Allemagne pour réitérer l'importance du soutien à l'Ukraine.
L'Allemagne et les États-Unis ont tous deux connu des manifestations contre leur soutien à Israël dans la guerre qui a éclaté à Gaza il y a un an. Dans le même temps, les deux pays signalent une augmentation des incidents antisémites au cours de l'année écoulée. Joe Biden et Olaf Scholz, qui se disent de centre-gauche, sont confrontés aux critiques de groupes de droite à propos de l'aide de leur gouvernement à l'Ukraine et à Israël.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Joël Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.